Tout juste 20h01 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver toute l'équipe de Génération Sport pour une nouvelle heure de sport sur Radio G. Et on va évidemment débriefer ce match entre l'équipe de France et la Pologne à l'Euro 2024. On se retrouve juste après le générique. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Un programme chargé dans cette émission puisque, vous le savez peut-être, le match entre l'équipe de France et la Pologne vient tout juste de se terminer sur un score de parité un partout. L'équipe de France qui va terminer donc deuxième de sa poule. On en discutera avec les gars autour de la table. Et puis surtout, en fin d'émission, on vous révélera les vainqueurs des générations d'or qu'on a mis en place une nouvelle fois cette année. Et on vous dévoilera du coup les vainqueurs dans l'ordre avec de belles surprises notamment. Je vais d'abord du coup présenter ceux qui m'accompagnent ce soir. À ma droite, il y a Cédric. Salut Cédric, comment ça va ?
Écoute, ça va chaudement.
Chaudement, oui, il fait très très chaud. Il y a des années quand même, on avait plus chaud dans le studio.
Ouais.
La radio fait des efforts pour nous, mais il fait toujours chaud quand même.
On a une mini-clim.
On a un petit ventilateur qui nous sauve la vie. Comment ça s'est passé ton week-end, bien ?
Ouais. Bah après un vendredi soir où on s'est fait, je dirais, chier, hein, faut dire les termes.
Oh, bah dis les termes.
Faut dire, hein, le match, franchement, on va en reparler, hein, mais...
Et on reparlera également de celui de qui vient de se terminer,
ouais,
évidemment.
Ouais, mais bon, enfin, j'ai envie de dire le
match
niveau...
Même à Camille, on va dire.
Ouais. Deschamps... On est habitué à son jeu, hélas, mais il confirme.
On tirera effectivement le bilan de cette phase de poule pour l'équipe de France. Florian est également avec nous. Il a pris des couleurs. Il est de retour cette semaine après avoir animé la semaine dernière. Salut Florian, comment ça va ?
Bah ça va très bien. Écoute, oui, prendre des couleurs, je pense que c'est le bon mot aujourd'hui. Mais ça va très bien. Écoute, je sens que l'animal fétiche de Didier Deschamps est parti. Du coup, ouais. N'est pas venu avec lui en Allemagne. Et on va avoir une suite d'euros assez sympathique. Il y a les nostalgiques de l'euro à 16, de l'euro à 16 équipes. Enfin, la partie haute de ce tournoi, en fait, dans les phases finales, ça va être un peu la même chose, en fait. Voilà, les meilleures équipes sont là-haut.
Exactement, ça va être intéressant de suivre ça. Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va ?
Salut Alex, salut à tous. Ça va bien, mais bon, un peu remonté après ce qui s'est passé après le match. Bon, on en reparle juste après, mais voilà. Et puis en pleine révision de l'oral que je passe jeudi, donc voilà.
Et bah merde à toi hein, pour cet oral. Également celui qui est en plein dans le bac.
Ouais.
C'est Faustin. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut à tous. Bah ça va moi aussi très bien. J'ai pas pu voir exactement tout le match parce que je conduisais, mais pour venir à la radio. Mais
j'avais des réactions derrière. Il avait des réactions de Clément.
Qui venu, j'avais des cris. Mais non, il y a pas pénalty là.
Conduit accompagné.
Supervisé.
Voilà. Ok, très bien. Tu crois que j'avais pas entendu ce que t'as fait la semaine dernière ?
Ouais,
petit couac.
Petit couac, ça arrive à tout le monde. Ça arrive même au meilleur.
C'est la philo, mais évidemment, c'était là où il a les
problèmes de philo. J'en sors
comme ça. Non, je rigole, évidemment, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé, évidemment. Pas de soucis là-dessus. Très bonne émission, les gars, la semaine dernière. Je tenais à vous le dire. Merci. Au programme, donc, de cette émission, on va débriefer ensemble ce France-Pologne. On va revenir, évidemment, sur les conséquences de ce match nul un partout entre Français et Polonais. On reviendra aussi sur toute l'actualité profiter de l'Euro 2024 puisqu'il va se passer pas mal de choses pour la suite du tournoi puisqu'on arrive très bientôt au terme de cette phase de groupe. On évoquera aussi les deux matchs qui ont lieu à 21h. Ensuite, pause musicale, les infos locales et internationales. Faustin, tu nous proposeras notamment une chronique sur la draft NBA qui arrive très bientôt cette semaine.
Dans la nuit de jeudi à vendredi.
C'est ça. Et donc, en nous parlant des Français, puisqu'il y a au moins 3 Français qui peuvent faire top 10 sur cette draft. Et puis, en toute fin d'émission, on vous dévoilera les vainqueurs des Générations d'Or 2023-2024. Vous avez voté pendant 2 semaines pour élire les acteurs du sport angevin et les récompensés de leur saison 2023-2024. On peut le dire, il y a eu un record de votants. Sur cette 3e édition, on est allé jusqu'à 510 votants. Donc on vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont pu voter.
Avec un pic qui est arrivé assez vite plus, c'était le premier soir quasiment.
Très rapidement, on a eu beaucoup de votes, donc on vous remercie pour ça et ça permet d'avoir vraiment un regard global sur les différents acteurs du sport angevin. Ça sera pour donc la fin d'émission. On va commencer donc sans plus tarder par ce débrief de ce France-Pologne à 1-1, 2 buts sur penalty de Kylian Mbappé et l'égalisation contesté, notamment par Clément, de Robert Lewandowski. C'était sur penalty, un penalty qui a été à retirer après l'arrêt de Mike Maignan, l'ancien gardien du LOSC qui était un peu avancé sur sa ligne au moment de la frappe du joueur polonais. On a donc ce score 1-1, mais surtout l'enseignement de cet après-midi, c'est que la France n'est pas première de son groupe. Je pense que ça fait un petit moment que la France n'a pas été première de son groupe en compétition internationale, et c'est l'Autriche qui va être première avec sa victoire 3-2 face aux Pays-Bas, un match assez spectaculaire, et les Pays-Bas qui vont être troisième, mais officiellement ils seront dans les meilleurs troisièmes, donc pas de soucis là-dessus pour les Hollandais pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Bon, sur ce match, voilà un peu pour le récit de la rencontre. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole pour déjà un peu résumer comment il a vu cette rencontre, les enseignements à tirer, qu'est-ce qu'on a pu voir dans ce match?
On n'a pas vu grand chose.
C'est ça le problème, voilà.
Enfin, si, on a vu quand même des occasions, je suis un peu dur parce qu'il y a eu des occasions françaises, j'allais dire parisiennes, parce que quand tu vois le trio d'attaque en début de match, je pense que de voir Barcola, les choix qu'a fait Deschamps ont un peu payé, parce que Barcola quand même a apporté quelque chose plus que Thuram ne l'a fait. Maintenant, mettre Barcola, ça, c'était plutôt logique, je trouvais, par rapport à ce que faisait donc Thuram. Rabiot a été replacé dans un milieu à 3 et c'était plutôt intéressant, on va dire. Les occasions, ils les ont eu, les Français, et ils sont encore tombés sur un très gros gardien aussi. Skłodowski a fait une très grosse performance. Donc du coup, on s'attendait à ce que le gardien soit moins fort, parce que Szczęsny, le gardien polonais, était pas là. Donc du coup, on s'attendait à voir autre chose. Et il a été au rendez-vous malgré tout. Donc les regrets, ils vont forcément être présents, parce que t'as les occasions. Maintenant, dans le jeu, j'ai trouvé que les occasions françaises n'ont pas été tranchantes face au but. Il y a 2-3 frappes de Mbappé qui, malheureusement, il y en a une qui est mise en tête en seconde période que je trouve pas du tout appuyée. Dembélé en rate pas mal aussi, donc les regrets seront là. Maintenant, à voir comment va tourner cet euro pour la France avec cette partie haute où tous les favoris sont là. Voilà, maintenant on disait un peu en antenne, la France peut tomber sur la Belgique au prochain tour, sur le Portugal en quart, sur l'Allemagne, l'Angleterre, enfin l'Allemagne et l'Espagne en demi. Enfin, ça promet. Voilà, ouais. C'est sûr que pour les audiences et pour le foot français, ça va être énorme de voir ces matchs-là. Maintenant, ils auraient pu se faciliter la tâche.
Cédric, qu'est-ce que t'as pensé? On a déjà eu un peu ta réaction. Est-ce qu'il y a quand même eu du mieux sur ce troisième match?
Je sais pas s'il y a eu du mieux au final. Il y a eu plus d'occasions, mais ça rentre pas. C'est un peu brouillon, je trouve, par moment. Tu vois, je trouve ça dommage. Barcola, alors, il l'a fait enfin rentrer, Deschamps.
Ça a fait du bien.
Ça a fait du bien. Ce que je trouve dommage, c'est de le sortir dès la 60e.
Oui.
Par le public. Surtout que, moi, déjà, ce qui m'avait agacé, c'est entre deux matchs. Quand les journalistes lui ont demandé à Deschamps, pourquoi il le faisait pas jouer, il a répondu, il est trop jeune, il a pas d'expérience.
C'est ce que je me suis dit aussi. Il y a pas trop de cohérence sur ce choix.
Donc, déjà, tu prends un jeune joueur. Tu veux pas le faire jouer parce qu'il a pas d'expérience.
Et dernier match.
Pourquoi tu le prends, déjà, de base?
Oui.
Il aurait pu peut-être servir à Thierry Henry.
Ouais, je pense aussi. C'est clair.
Bon, il y aurait eu peut-être le souci avec le PSG pour les JO, mais bon, je pense que ça aurait pu se négocier plus facilement.
Bah oui, si tu fais pas l'Euro, tu fais que les Jeux, forcément, je pense que.
C'est ça. Pour le Paris Saint-Germain. Pour les matchs de préparation, c'est un peu moins grave, je pense, du PSG de pas l'avoir, mais. Et là, il fait bon, bah, vas-y, je te titularise. Tant mieux. On a vu, ça a apporté des petites choses. Ah, peut-être que je l'aurais pas mis titulaire d'entrée de jeu, je l'aurais peut-être gardé en réserve pour un peu dans son rôle, un peu punchy, pour débloquer les situations. Et dans ces cas-là, fais-le jouer au moins 70, voire l'intégralité du match, hein, parce que je pense pas, hélas, qu'il leur met titulaire au prochain match. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est... Il y a un manque de cohérence dans le fait de dire il est trop jeune pour jouer, pour rentrer face aux Pays-Bas dans un Euro où il faut de la, il faut un peu dynamiter ce match.
Il met Griezmann.
Et là, il me le met titulaire directement. Tu vois, il aura pu justement y aller doucement, mettre une demi-heure, sur le dernier match. Et pourtant, il y avait de l'enjeu en plus. Donc,
c'est ça. Un Dembélé, par exemple, qui a enchaîné les deux matchs, qui n'a pas été mirobolant sur le... Alors, ok, là, il nous a amené le pénalty. J'ai envie de dire heureusement, mais sinon sur l'ensemble des matchs, moi je le mettais pas pour le troisième match. Dans ces cas-là, tu testes une autre solution. Ouais. Enfin, de toute façon, dans ce taureau-là, il a pas fait de test en amont. Donc, du coup, il s'est retrouvé dans le dur. Mmh. Il a fait, oh bah je fais comme d'hab, je prends des joueurs, je les mets au hasard, ça passera. Et ben là, ça passe, mais...
Moyen.
Pour moi, déjà, on perd la première place, déjà, dans la première mi-temps. Avec tout ce qu'on peut concrétiser. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils jouaient au ralenti. Ah, bah, tiens, ils sont en Autriche, ils sont devant. Hop, vas-y, on lève le pied, puis on va essayer de contrôler, et puis, quand il faudra mettre le but, on va le mettre, comme ça, on sera gagnant, et puis ça passera. Bah, au final, on se prend ce pénalty qui peut être discutable. Et voilà. Enfin.
Pour revenir sur le récit de la rencontre, il y a eu ce premier penalty donc obtenu par Ousmane Dembélé à la 56e minute, transformé par le vengeur masqué Kylian Mbappé, et à la 79e minute de jeu, c'est Robert Lewandowski qui a donc inscrit le sien, mais après ce deuxième tir, cette deuxième tentative, puisque Mike Maignan avait arrêté cette première tentative, mais il était sorti de sa ligne de but. Et on rappelle la règle, c'est que le gardien doit garder au moins un pied sur la ligne au moment du tir de l'attaquant.
Sachant qu'il y avait eu... Pourquoi il bouge le pied? C'est parce qu'il voit en amont qu'il y a plusieurs courses.
Ben, c'est ça. Alors,
en départ
c'est
arrêté.
C'est aussi polémique, voilà. On va en parler, mais sur le penalty donc obtenu. Alors, il n'y a pas forcément de contestation sur celui de la France sur la Pologne. Clément, t'avais l'air un peu remonté contre l'arbitre du jour.
Oui.
Pour toi, il y a clairement pas penalty pour les Polonais.
Non, parce que c'est Upamecano qui vient glisser son pied sous le pied du Polonais. Donc pour moi, si jamais Upamecano, il avait mis son pied au-dessus de celui du Polonais, ok, là il y a pas de contestation. Mais il vient glisser son pied sous le pied du Polonais. Il touche la balle et ensuite après le Polonais il vient mettre son pied sur son pied et du coup il y a penalty. Ça serait un peu comme si Upamecano avait mis une tête, il touchait la balle et après avoir mis la tête, il percute un Polonais et dans ce cas-là, je suis pas sûr qu'on aurait sifflé penalty. Donc c'est pour ça que c'est assez contestable et puis en plus après il y a ce penalty qui est retiré avec Maignan qui a son pied qui frôle la ligne mais qui est pas sur la ligne. Enfin, oui, c'est discutable et c'est un peu rageant parce que on voit toutes les occasions françaises avec des occasions qui sont franches sans être franches parce que c'est des frappes qui sont difficiles à mettre, souvent excentrées où le gardien il fait office de barrage et il a juste à bloquer la balle. Donc oui, c'est assez rageant pour les Français qui auraient pu se faciliter cet euro. Mais bon, maintenant c'est fait, va falloir rebondir et tout simplement être meilleur dans les phases éliminatoires, parce que c'est pas non plus une équipe de France à son prime qu'on voit depuis le début de cet euro.
Je sais pas si inconsciemment le fait de savoir qu'ils étaient déjà qualifiés, si ça a pas joué.
C'est le problème de cette compétition en 24 aussi.
Ouais. Non, mais enfin déjà, je trouve ça.
Dire quand t'as aussi 4 pêchés au niveau des points, c'est ça, 4 meilleurs 3e, en fait tu sais que au final dès le deuxième match, même en gagnant ton premier match, tu sais que tu vas être qualifié.
C'est ça.
Mais tu vois, en gagnant contre l'Autriche avec ce but contre son camp, tu sais très bien qu'avec 3 points, t'as toutes les chances d'être repêché et d'être 3e. Et d'être repêché dans les meilleurs 3e. Donc au final, cette compétition à 24, oui, c'est bien parce que ça t'apporte des effets supplémentaires. Et ça te, surtout quand tu vois qu'une victoire, ça rapporte 1 million d'euros à une fédération. Un match nul, c'est 500 000 euros. Enfin, c'est énorme. Donc, du coup, cette compétition à 24, oui, ça apporte des sélections comme la Slovénie, comme la Géorgie, comme Matteo nous en avait parlé il y a 15 jours. Mais au final, on se retrouve avec une compétition qui est tronquée parce qu'en fait, dès la fin de la première journée la semaine dernière, on sait que t'es qualifié. Voilà. C'est le problème de cette compétition à 24.
Contre son camp pour l'équipe de France.
Notamment. Exactement. Et tu lui demandais tout à l'heure la stat, je l'ai vu, là, c'est 2012. La dernière fois que la France a fini 2e de sa poule, Coupe du Monde ou Euro confondu. C'est 2012 quand la France fait derrière l'Angleterre et devant l'Ukraine et la Suède. Voilà. 2012, l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine.
Ouais. C'est vrai que ça remonte, et ça nous ramène à des périodes assez tristes pour l'équipe de France.
Ouais.
Faustin, par rapport à la suite du tournoi et sur cette fin de phase de poule, c'est clairement une mauvaise opération pour l'équipe de France.
Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a même pas eu un sursaut d'orgueil des joueurs français qui n'ont pas cherché vraiment à aller prendre une victoire, à envoyer un message comme on en parlait dès le premier match. On gagne 1-0 sur un but contre son camp, on n'en voit rien du tout. Les autres équipes, elles n'ont pas peur de nous, alors que quand on voit l'Allemagne qui explose tout sur son passage, là on peut se dire que en plus on risque de les affronter très prochainement si on arrive à se qualifier quand même pour les huitièmes et les demi, etc. mais on n'envoie pas de message, on fait pas peur et on a l'impression qu'on va pas réussir quoi.
Après j'ai l'impression que c'est un peu le topo de la France. 2018 quand on gagne la Coupe du Monde, on fait une phase de poule qui est nulle aussi. On se réveille
en premier.
Oui. C'est vrai. Mais on se réveille un peu en gagnant ce match contre l'Argentine qui était pas donné aussi. Ouais. Là, on va sûrement tomber contre un adversaire. Si on tombe contre la Belgique, ça va être un peu dans le même format que l'Argentine où ça va être un match compliqué et il va falloir sortir un gros match. Et ça peut être aussi le déclencheur de cet euro, de tomber contre la Belgique et d'ensuite peut-être sortir un gros match et puis après des grosses équipes, donc va falloir sortir le gros jeu. Là, c'est des équipes qui sont moins faciles à jouer aussi parce que les Pays-Bas ça a défendu à 11 derrière en attendant un petit peu le contre. La Pologne, c'était pareil, l'Autriche pareil, donc c'est peut-être pas le jeu des Français de garder la balle. Je suis peut-être un peu chauvin en disant ça et j'attends peut-être aussi à des meilleures prestations des Français, mais c'est aussi un jeu compliqué à jouer et avec des flèches comme Barcola, Dembélé et Mbappé, forcément qu'on attend aussi que ça soit un match un peu plus ouvert et qu'on puisse développer ce système de jeu là aussi.
C'est vrai que ton comparo avec la Coupe du Monde 2018 et la phase finale en fait avec les matchs à élimination directe, c'est vrai que quand tu fais Argentine, Uruguay, Belgique, Croatie, c'est quand même des grosses équipes que tu joues. C'est vrai que la France va se retrouver dans ce scénario-là, en plus. Donc, du coup, mais après, je rejoins Faustin. C'est vrai qu'à un moment donné, on attendait mieux. Quand tu vois que tu fais rentrer Griezmann, Giroud et Kamavinga, qui sont quand même des Kamavinga avec un peu moins d'expérience en bleu, certes, mais Giroud, Griezmann, c'est quand même tes joueurs à plus de 130 sélections.
Ils ont été transparents.
Et en fait, on les voit pas rentrer. Et pourtant, je suis un fan inconditionnel de Giroud, mais là-dessus, sur ce match-là, on s'attendait à ce que ça soit eux qui apportent cette, cet effort et ce regain d'intérêt quoi, et en fait au final c'est vrai que l'Allemagne c'est difficile contre la Suisse, mais ils envoient un message en fin de match avec le retour et le but de Füllkrug. Tu vois l'Espagne, même en jouant tranquille en faisant tourner, ils ont 3 victoires. L'équipe B battent l'Albanie. Enfin, tu te retrouves avec des équipes qui envoient des gros messages quoi. Le Portugal qui en colle 3 à la Turquie alors qu'on était plutôt content du premier match. C'est vrai que les gros favoris eux répondent présent, nous on est un peu en retrait quoi.
Bon, on sait jamais, je pense.
Vous êtes inquiet justement, toi Clément pas trop, Cédric, Florian, vous êtes un peu inquiet pour cette phase finale qui arrive.
S'ils jouent comme ils ont joué là, oui, on va droit dans le mur.
Après,
même si la défense, elle a quand même c'est peut-être le seul truc, on va dire, qui est positif de cette phase de poule. Je pense que déjà si on joue les Belges derrière.
J'aime bien Arthur Théâtre, mais Théâtre face.
C'est milieu de tableau de Ligue 1 quand même.
Voilà. Enfin,
T'as cette rivalité depuis.
Oui, d'accord.
Ils vont miser là-dessus, les Belges.
Oui, ouais. C'est pas Courtois dans les buts. Alors après, peut-être que là, je suis en train de lancer une grosse banane et que la semaine prochaine, on va nous ridiculiser, on va nous dire, Génération Sport, ils se sont trompés et tout, tu vois, c'est des trompettes.
Mais c'est pas la première fois.
Je suis pas inquiet. Je veux dire, qui va nous mettre un but? Qui va mettre un but à l'équipe de France? Tu prends un but sur penalty, un penalty retiré. Donc franchement, dans le jeu, je vois pas cette équipe inquiète. Et d'accord, Upamecano, Alex, tu trouvais que l'erreur était un peu aussi, voilà, une petite saute d'humeur et compagnie.
Ouais. Mais bon, sort un match de patron.
Que ce soit Saliba ou Upamecano, tu mets Konaté derrière. Je suis pas inquiet du tout, franchement, avec Maignan dans les buts derrière.
Encore,
je veux dire, Koundé. C'est pas un latéral, on l'a vu faire 2-3 actions, il fait une belle passe en retrait sur Giroud en fin de match, c'est vrai. Mais bon, Koundé, offensivement, il apporte pas non plus énormément. Par contre, défensivement, il te fait le taf.
Ouais.
Et donc, du coup, dans cette défense un peu à 3, parce que Hernandez manque beaucoup.
Et tu peux peut-être même faire entrer Mendy si tu dois conserver un score, qui va t'apporter de l'agressivité pour compenser Hernandez. C'est du coup peut-être le débat va peut-être se faire au niveau de l'attaque. Est-ce que pareil, vous avez été clairement déçu par l'attaque? Si vous deviez sortir votre soit trio, soit quatuor à mettre, si vous étiez à la place de Didier Deschamps, vous partiriez sur quoi? Parce que on a eu des mauvaises performances, on a eu qu'un seul buteur, c'est Mbappé sur penalty, et je pense que bon, lui, il est coché d'entrée sur la feuille de match. Donc, qu'est-ce que pour vous qui a fait entre guillemets la moins mauvaise impression et en tout cas qui pourrait apporter peut-être dans un schéma tactique, qu'est-ce que selon vous, ce serait quoi? Ça réfléchit beaucoup.
J'ai du mal à voir. Là.
Moi, j'ai donné peut-être mon avis à moi. Ouais. Je partirais sur, en tout cas sur le match, notamment le deuxième match, vu que Mbappé n'était pas là. Je voulais partir sur Barcola pour dynamiter, voilà, un peu ce côté gauche. Remettre Giroud à la place de Thuram. Thuram est pas mauvais, mais je pense que Giroud est au-dessus et puis il a l'expérience. Même si on m'a accusé parfois d'être un peu un détracteur de Giroud, mais non, je pense que ça reste quand même évidemment un très très bon attaquant. Et puis à droite, ça se joue entre Dembélé ou Coman, après avoir Coman son état de forme, et puis Griezmann toujours.
Donc tu mettrais pas Mbappé?
Non, mais ça c'était les Pays-Bas, si Mbappé n'est pas, mais évidemment je partirais sur Mbappé, Giroud, parce que on sait que ça marche. Il y avait même Mbappé qui avait fait des déclarations en disant qu'il se sentait mieux en équipe de France parce qu'il y avait le fameux neuf pivot, et Giroud a apporté ça, après Mbappé, c'est vrai que sur son placement on sait jamais trop est-ce qu'il veut jouer à gauche, est-ce qu'il veut jouer dans le demi-espace, est-ce qu'il veut jouer en pointe, et puis à droite je pense que ça se joue clairement entre Coman ou Dembélé. Dembélé sur les deux premiers matchs m'a pas du tout convaincu, peut-être un peu plus ce soir, mais pas non plus dingue. Et Coman, après voilà, encore une fois on connaît pas trop l'état physique de Coman, faire entrer Barcola peut-être un peu plus tôt, et Barcola je pense qu'il peut jouer à droite sur une rentrée. Thuram aussi peut rentrer, clairement. J'entends pas Thuram, mais par exemple Colomoini, c'est compliqué. Ouais. De votre côté, c'est quoi votre analyse par rapport à l'attaque? Est-ce que vous
retiendrez? Je suis plutôt d'accord sur le fait de remettre Giroud, quitte à le faire sortir assez rapidement, parce que quand même tenir 90 minutes pour lui, ça commence à être compliqué. Mais justement, t'as Thuram qui peut rentrer, t'as même Colomoini qui peut rentrer à sa place, même si je suis moins favorable à ça. Mais ouais, le laisser en pointe, comme ça Mbappé il peut plus se développer côté gauche et créer du jeu. Et je pense laisser Dembélé à droite aussi.
Pareil les autres. Pas une autre idée.
Moi je trouve que je mettrais pas Dembélé parce que ce joueur il fait des différences, mais qu'est-ce qu'il est imprécis. Il rate la dernière passe, il rate sa frappe. Enfin. En fait, c'est vraiment un super joueur balle au pied, mais dès qu'il faut faire le bon geste, il a vraiment du mal et ça enterre un peu le fait qu'il soit très bon balle au pied. Il fait des différences, mais qui servent à rien au final. Donc je pense que je mettrai un Mbappé à droite. C'est assez inhabituel, mais c'est quand même, je pense que le joueur qui peut le plus remplacer Dembélé, avec Giroud en pointe et à gauche Barcola, parce que Barcola et Mbappé, bah ensemble vraiment ça fait des différences. On l'a vu à ce match, ils savent se trouver et ça peut créer quelque chose de beau. Et en termes de percussion, Barcola Mbappé, bah c'est vraiment il y a pas beaucoup mieux. Et je pense que oui. Et juste pour revenir vite fait sur le match d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de doute, parce que les Bleus, là, ce qui leur manque, c'est de la précision. Il manque des gestes qui manquent pas d'habitude. Kanté qui récupère des ballons, qui les perd tout de suite après. Et c'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir. S'ils arrivent à régler ça, je pense que vraiment, dans les équipes favorites de cet Euro. Et c'est pour ça que je suis pas vraiment inquiet.
Ouais, le côté technique fait défaut hein, sur ces trois matchs. Toi, Florian, tu voyais le chef de la tête sur l'idée de...
Complètement, je rejoins à 100% Clément sur ces trois offensifs. Je vais aller plus loin parce que Mbappé, je me dis que à droite sera mieux, en tout cas dans cette compétition-là, pour le bien de l'équipe. Si on veut aller chercher quelque chose, il faudra qu'Mbappé aille à droite. Pourquoi? Parce que derrière il y a Koundé qui peut défendre et qui va pas forcément monter et qui va courir Mbappé. On a vu Barcola venir dézonner sur la gauche aujourd'hui, ce soir. Enfin, c'était son poste ce soir et Mbappé est venu sur son côté. Mais Barcola revenait un peu plus défensivement aussi pour couvrir ce que faisait Hernandez. Et puis, Giroud en neuf, on n'a pas mieux. Je veux dire, même si c'est sa dernière compétition, même s'il est cramé de chez cramé, voilà, et je sais qu'il va tout donner. La chance qu'on a, c'est que du coup on ne joue que lundi prochain aussi, il y a aussi ça, donc on a une semaine quasiment complète pour reposer un peu les corps et les esprits, et donc de voir Barcola revenir défensivement parlant. Griezmann sera là aussi, et quand tu vois cette paire Kanté Tchouaméni, c'est aussi ce qui va te rassurer dans ce milieu. Donc avoir ces quatre là avec ce petit carré sympa devant, ce trio plus Griezmann aussi pour alimenter le jeu, c'est ce que je veux voir en tout cas pour la suite de la compétition.
C'est vrai que notamment on parle de l'animation offensive, qu'est-ce qui t'a plu comme schéma entre celui d'aujourd'hui avec un 4-3-3 assez classique, ou peut-être celui des Pays-Bas avec Rabiot sur le côté gauche dans ce retour du 4-2-3-1 symétrique? Qu'est-ce qui t'a...
J'avais l'impression que pendant les Pays-Bas, et même si, enfin, c'est difficile de dire que c'était mieux, j'avais l'impression que ça circulait mieux, qu'on avait plus de possibilités de
maîtrise,
de maîtrise, ouais. Là, ce soir, on est retombé, j'ai l'impression d'un peu dans le travers, c'est on joue pour Kylian.
Ouais.
Sur Tandis que quand il était pas là, je trouvais que ça jouait plus, sur tout le monde, c'était un peu plus solidaire,
Bon, ils sont quand même beaucoup passés par Dembélé et après quand Mbappé est passé un peu plus sur le côté, oui, mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que on s'est servi de Barcola et de Dembélé comme il le fallait, même si Dembélé a pas forcément répondu présent. Barcola, il a su faire ses différences de son côté. Et...
Parce que t'as des espaces derrière, des espaces, voilà, les Polonais, c'est des boulevards, je veux dire, les deux pistons. Et pour poursuivre énormément le Racing Club de Lens, parce que il y avait Frankowski qui était là, et c'est l'un de ses points faibles, c'est quand on joue dans son dos. Ouais. C'est quelqu'un qui va très haut, qui va chercher très haut le défenseur ou l'ailier adverse, mais derrière, en fait, il laisse des boulevards. Donc, et c'est ce qui a été fait par Barcola en première mi-temps. Je veux dire, c'était lui son principal adversaire. Ça a été exploité, malheureusement mal maintenant.
Ouais. Et c'est sûrement ce qui va arriver au 8e. Il y aura des espaces derrière, et comme je l'ai dit, ça sera peut-être plus le jeu de l'équipe de France.
On verra ça. Je vais vous donner un petit peu le tableau donc de cet Euro 2024. Comme tu le disais, Florian, on est dans la partie haute et puis surtout dans une partie assez compliquée, avec donc l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal qui d'ores et déjà sont dans cette partie. On retrouvera également le deuxième du groupe C, donc potentiellement l'Angleterre
ou le Danemark.
Les Anglais venaient à faire une contre-performance ce soir. Et puis donc la France, on le disait, va jouer donc ce sera lundi à 18h son 8e de finale contre le deuxième du groupe E, un groupe E où clairement c'est très flou, puisqu'il y a les quatre équipes sont à 3 points, une victoire chacun, et donc tout se jouera demain soir. Il y a même un cas de figure où toutes les équipes terminent à 4 points, donc on suivra ça bien évidemment. Tout se jouera au goal average, mais on rappelle que c'est le groupe de la Belgique notamment, on en a un petit peu parlé, mais aussi de l'Ukraine, de la Slovaquie et de la Roumanie, donc évidemment je pense qu'il est préférable d'éviter la Belgique. Dans la deuxième partie de tableau, c'est vrai que, en tout cas au niveau des qualifiés, c'est peut-être un peu moins reluisant avec l'Autriche, la Suisse et l'Italie. On va retrouver aussi le premier du groupe C, potentiellement donc l'Angleterre, le deuxième du groupe F, donc ça se jouera entre la Tchéquie et a priori donc la Géorgie, et puis le premier du groupe E qui sera également dans cette partie de tableau, et on retrouvera donc potentiellement la Belgique ou une autre équipe du groupe E. Pour terminer un petit peu, justement,
est-ce que tu veux les réactions des champs?
Tu peux, avant d'enchaîner sur les autres équipes.
On va rêver.
Ah ouais, non, mais parce que bon, c'est du Deschamps dans le texte. Hein. Donc il était en interview sur Bing, hein, donc, c'était retransmis aussi sur cette chaîne-là, en plus de TF1. Donc du coup, pour lui, il est pas frustré.
Ok.
Moi, je suis un peu étonné quand même, quand tu sais que tu perds ta première place. Logiquement, t'es un peu frustré quand même. Surtout que derrière, il dit, évidemment... qu'on voulait la première place, mais pour ça, il fallait gagner. Merci Didier de nous apprendre que pour avoir une première place, il faut gagner.
Ouais.
Après, en gros, ce qu'il dit, c'est que donc on a fait ce qu'il fallait en se procurant des occasions pour gagner. On aurait pu mieux faire en efficacité, même si le gardien a fait de très beaux arrêts. On aurait aimé se mettre à l'abri avec deux buts d'avance, mais on n'a pas été capable de faire. Et sur ce qu'il a déclaré, c'est une nouvelle compétition commence.
La fameuse, évidemment.
Voilà. Dans ces cas-là, pourquoi on met des phases de poule hein, qu'on aille directement en huitième hein.
Ça, c'est que pour les Français, j'ai l'impression.
Je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui pensent comme ça, mais en tout cas, des chances, c'est vrai que c'est souvent...
T'inquiète pas, quand Italie fait la même chose.
Oui. Je pense que même là, les Pays-Bas, ça a été un peu ça avec leur match... contre la France, où dans les deux sens, ça n'a pas forcément eu envie de jouer. Ça s'est dit, vas-y, on réglera ça sur le troisième match avec Easy Peasy. On voit au final que, bravo l'Autriche, quoi.
On va parler maintenant des autres favoris de cette compétition rapidement avant de passer à la pause musicale. Est-ce qu'il y a une équipe que vous ressortez ou voilà, la fin de groupe va se terminer très bientôt. Quelle équipe vous voyez en tout cas, peut-être quelle équipe a bousculé vos avis sur les favoris de la compétition, Faustin?
Moi, c'est clairement l'Espagne qui m'a vraiment séduit dans le match.
Je pense que d'ailleurs, on est tous un peu d'accord là-dessus.
Ouais, j'imagine parce que vraiment, le match contre l'Italie, ça m'a vraiment séduit voir Williams à gauche et Yamal à droite qui font un boulot monstrueux alors qu'ils ont 16 ans ou 17 ans et 19 ans. C'est n'importe quoi et franchement je les vois aller loin. Alors qu'à la base je les avais pas mis forcément dans mes favoris.
Ouais. Personne n'a une autre sélection parce que c'est vrai que l'Espagne fait forte impression en terminant première de la poule de la mort.
Faut se méfier du Portugal. Le Portugal aussi qui est pour moi avec l'Espagne les deux équipes qui ressortent le plus. L'Espagne qui est peut-être qui peut avoir mal contre une équipe comme la France qui joue les contres, je pense, parce que c'est une équipe qui aime bien la possession, sauf que en défense c'est pas non plus Laporte et le Normand, c'est des bons défenseurs mais c'est pas non plus infaillible. Ils sont tombés contre l'Italie qui est... Bon, ça va peut-être pas trop te plaire, Florian, mais c'est pas non plus une grande Italie cette année. Et je pense qu'il va falloir confirmer avec l'Espagne, sûrement en quart de finale où on va tomber sur un Espagne-Allemagne qui va, je pense, là nous ressortir le favori de cette compétition.
Florian, justement sur l'Italie déçu.
Je reste sur l'Italie mon favori parce que du coup deuxième, tu vois que le parcours sera un peu plus ouvert, on va dire, même s'il faudra se méfier de la Suisse pour les Italiens. Mais clairement, je sais que du côté en Italie, c'est clairement le discours aussi. C'est une autre compétition qui commence parce que dans les phases d'élimination directe, c'est vrai que les Italiens vont être durs à jouer. Hein. Quand tu vois la défense, c'est pareil. Hein. Défensivement parlant, l'Espagne a galéré aussi pour mettre ce but. C'est un but contre son camp. Après, c'est un match totalement abouti des Espagnols, clairement. Mmh. Mais je reste en l'Italie et il faudra quand même se méfier pour l'Espagne parce que je viens de voir un peu aussi dans les meilleurs troisièmes et pour l'instant j'ai l'impression que ça serait peut-être les Pays-Bas pour les Espagnols le prochain tour.
Donc ça, ouais, ça peut être une
grosse affiche. Donc imagine l'appareil par contre du combattant pour les Espagnols, tu pourrais avoir Pays-Bas, puis Allemagne, puis bon,
puis Portugal ou France ou.
Mais je reviens juste rapidement sur le truc que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de nostalgiques et j'en fais partie de cette Euro à 16 avec les 16 meilleures équipes européennes et c'était vraiment une belle bataille. Là, cette partie haute que tu expliquais tout à l'heure, Alex, on est vraiment. J'invite les auditeurs à regarder. On est vraiment sur une compétition à l'ancienne avec les meilleures équipes européennes dans cette partie haute de tableau, excusez-moi. Voilà.
Cédric, toi, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a marqué particulièrement?
Ouais, toutes celles qui m'ont fait perdre mes pronos.
Eh oui, on rappelle mon petit prono. Et on est tous dessus. Donc l'équipe de Génération Sport a créé sa petite ligue. Et celui qui n'est pas là aujourd'hui, Mathéo, et évidemment c'est celui qui mène assez largement.
Il roule sur la mousse.
Avec plus de 1400 points. Ensuite Clément.
Et ouais, j'ai fait une petite remontada
sur le podium. Ensuite on retrouve Faustin, Florian et Cédric qui voilà effectivement tu le. On sent que ça te met un peu en galère justement.
À chaque fois, il reste quelques minutes. Ouais. J'ai les bons pronos. Par contre, c'est ça qui a été intéressant quand même dans cette troisième phase, troisième partie, c'est que il y a eu quand même des scénarios foufous.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Les autres
Allemagne, Italie.
Au début, c'était ça respectait la hiérarchie et puis après plus trop.
C'est ça. Ouais,
donc
ouais.
Justement au niveau des pronoms, on a pu changer de stratégie parfois. Ouais, effectivement.
Ça c'est cool.
Qui s'en sort bien, mais c'est vrai qu'on avait tous, j'ai l'impression, mal démarré. Hein.
Ouais.
Je pense qu'on avait tous.
Oui, c'est vrai.
Et puis je crois que c'est à partir du week-end dernier où Mathéo a commencé à engranger des points. Donc voilà. On va passer à la pause musicale. Désormais, on va s'écouter donc Gims et Distinct sur Radio G avec leur titre Spider et on se retrouve juste après.
Maximum. OK, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'audit été. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. À Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes marquantes, je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'audit été. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
Ah, t'es ma vie. Ah, hi-hi-di. Ah, je n'ai vu que toi, ya habibi.
On y va. Bote et casac plein de caisses. Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Si n'en voit le logo, j'ai flamme. Moi je pose des milliers à élever banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alami. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'audit été. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
Ah, t'es ma vie. Ah, hi-hi-di. Ah, je n'ai vu que toi, ya habibi.
On y va. Chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt.
C'était Gims et Distinct sur Radio G avec leur titre Spider. Vous êtes toujours en compagnie de toute l'équipe de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler désormais de des infos locales et internationales. Et puis en fin d'émission, dans quelques instants, on vous dévoilera les vainqueurs pour les Générations d'Or 2023-2024. On a évidemment un petit peu de retard sur le conducteur, mais voilà, c'est ça, évidemment, les grandes compétitions, on parle beaucoup, il y a pas mal de débats. Pardon, excuse-moi, Cédric, je n'ai pas encore allumé les micros.
Je disais priorité forcément direct.
Hein. Évidemment, c'était l'occasion parfaite, hein, évidemment, de se faire ce petit débrief de l'équipe de France. On va pouvoir maintenant commencer à parler des informations locales et internationales. Au niveau du local, le calendrier 2024-2025 de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi pour son premier match de sa saison de retour en élite. Le SCO d'Angers recevra Lens avant de se rendre à Lille la semaine suivante. Les dates également importantes à retenir pour les Angevins restent les derbies et également les réceptions des gros du championnat. Les joueurs d'Alexandre Dujeux joueront notamment donc leur voisin nantais à domicile lors de la 5e journée le week-end du 22 septembre. Et ils iront à la Beaujoire le week-end du 4 mai à l'occasion de la 32e journée dans le sprint final. Et après avoir reçu des équipes comme Concarneau, Quevilly-Rouen ou encore Pau, le spectacle à Raymond Kopa va changer de gamme avec les venues du PSG le week-end du 10 novembre, de l'OM le week-end du 9 février et de l'OL le week-end du 8 décembre. Et c'est d'ailleurs face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium que le SCO terminera sa saison lors de la 34e journée.
On commence par l'équipe de Flo avec Lensco et on finit avec ton équipe.
On verra évidemment si le SCO peut bien finir cette saison. Ouais.
Et peut-être juste sur le SCO, il y a eu
d'arrivées, oui. Vas-y.
Jean-Eudes Aoulou qui connaît très bien la Ligue 1 et qui donc débarque au SCO. Il a joué notamment au LOSC et il quitte le RC Strasbourg, donc qui était en Ligue 1. Pour rejoindre le SCO, je pense que c'est un très bon recrutement du SCO. Déjà avec deux joueurs de Ligue 1, c'est pas souvent qu'on voit des joueurs de Ligue 1 recrutés par le SCO. C'est plutôt National ou Ligue 2 d'habitude. Donc
et
c'est
également, il faut le dire, Karl-Heinz Arcus également, un ancien joueur de Auxerre qui va rejoindre le SCO, un latéral droit haïtien. Donc voilà le mercato qui commence tout doucement du côté d'Angers et qui est plutôt intéressant.
L'avantage c'est que pour le joueur, l'ex Strasbourgeois, c'est que il était gratuit en termes de transfert.
Oui, bah oui, en plus.
Donc c'est pourquoi, souvent comme pourquoi ça, pas le tenter. Ce qui va peut-être pêcher, c'est qu'il a quand même un an sans compétition dans les jambes.
Ouais, c'est
donc c'est peut-être ça qui va faire que ça peut pêcher dans le en début de saison.
C'est de l'expérience, c'est bien.
Ouais, c'est une bonne expérience de la Ligue 1. Faustin, est-ce que tu as tu me regardes avec des yeux. Est-ce que tu as regardé un petit peu au niveau du mercato de l'UFAB, puisque
tout
ça a bougé récemment.
Ouais, il y a deux départs et deux arrivées en plus. Le départ de Nabala Fofana ainsi que celui de Masséni Kaba, pardon. Voilà, qui donc quitte l'UFAB, c'est vraiment
encore des cadres,
voilà, tout l'effectif quasiment qui est parti. Il nous reste Marine Dursus et Axel Merceron, je crois que c'est tout. Il me semble
c'est
tout.
Ouais, c'est vraiment le grand ménage.
Exactement, et du coup ça a fait deux arrivées, celle de Quinn Urbaniak Dornstauder au poste 5, une canadienne de 28 ans qui affichait des bonnes stats la saison dernière, et l'arrivée aussi de Jessica Jackson en provenance du Mexique, poste 4, là aussi pour renforcer le secteur intérieur.
Très bien, merci à toi.
Et apparemment, ce serait terminé en termes
de mercato.
De mercato, oui.
Ouais, ça fait déjà pas mal, à mon avis.
Merci à toi, Faustin, pour ce point basket. On va passer du côté de l'athlétisme, puisque ce week-end à Angers, au stade Miculac, au lac de Maine, se dérouleront les championnats de France d'athlétisme. Comme pour les années précédentes, le gratin de l'athlé français va se retrouver dans la capitale de l'Anjou pour une ultime répétition avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on suivra bien évidemment les résultats d'Amandine Brossier, qui évoluera une nouvelle fois à domicile devant un public acquis à sa cause pour tenter de faire les minima pour les Jeux Olympiques sur le 400 mètres, notamment en individuel.
Il va y avoir beaucoup d'enjeux quand même dans ces championnats de France.
Ça va être très intéressant.
Ne serait-ce qu'à la perche.
Oui, avec la Villeneuve.
La Villeneuve, bon. Ça va être suivre ça. Personnellement, j'y crois pas trop.
Bah après, j'avais dit.
Je pense qu'il est temps qu'il raccroche un peu.
Les crampons, les pointes, plutôt.
Voilà, on va passer.
Et ce sera diffusé sur l'équipe, c'est à noter. Ce sera accessible gratuitement.
Pour ceux qui voudront regarder.
C'est pas cher en plus pour y aller. C'est 3 jours, 20 euros, c'est abordable.
C'est clairement abordable. On va passer à l'international maintenant avec, pour commencer, le rugby, Clément. Ce week-end, il y a eu les demi-finales du top 14. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, il y a eu les demi-finales du top 14 et vendredi soir, on avait, pendant le match du coup de France-Pays-Bas, Toulouse-La Rochelle. Et bien sûr, Toulouse s'est imposé encore une fois assez facilement et a prouvé encore une fois qu'ils étaient les patrons de ce top 14 en s'imposant 39-23 face à La Rochelle. Et samedi soir, on avait Stade Français Bordeaux-Bègles, un match très 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 accroché puisque Baptiste Jauneau avait la pénalité pour... donc égalisé à la dernière seconde et a raté cette pénalité pour quelques centimètres et donc c'est Bordeaux-Bègles qui l'emporte 22-20. La finale aura lieu le vendredi 28 juin, donc ce vendredi-là. Et opposera donc Toulouse à Bordeaux-Bègles. Toulouse est en grand favori, même si je pense que Bordeaux-Bègles peut quand même tirer son épingle du jeu et peut-être et peut-être pourquoi pas venir chercher ce titre. Je vous pose ça là maintenant, on verra la semaine prochaine.
Le Brémus, il va dans ce coin-là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il descend un peu plus dans les Pyrénées. Tu vois.
On verra ça, évidemment. Avant de passer à ta chronique, Faustin, et ensuite les vainqueurs des Générations d'Or, il y a d'autres infos qui concernent le sport français, notamment en cyclisme et en natation. Alors que le Tour de France s'élancera, on le rappelle, de Florence samedi prochain, les cyclistes français se disputaient le titre de champion de France dimanche sur les terres de Normandie, malgré la présence de têtes d'affiche comme Julien Alaphilippe notamment. C'est le jeune coureur de l'équipe Décathlon G2R la mondiale, Paul Lapeyra, qui a remporté l'épreuve. Une victoire très symbolique pour le cycliste normand qui disputera d'ailleurs son premier Tour de France cette année. Grand espoir du vélo tricolore, Lenny Martinez, 20 ans, sera également au départ de la Grande Boucle en Italie sous les couleurs de l'équipe de la Groupama FDJ. En natation, à l'occasion des championnats de France qui se tenaient à Chartres la semaine dernière, les nageurs et nageuses français ont profité pour valider les dernières qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La plus grosse chance de médaille côté français, Léon Marchand sera bel et bien au rendez-vous sur 4 épreuves, 400 mètres 4 nages, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, 200 mètres 4 nages. Parmi les autres tickets pour les Jeux, on retrouve notamment sur les lignes d'eau parisiennes d'autres têtes d'affiche comme Charlotte Bonnet, Mélanie Hennick, Marie Vatel, Florent Manaudou, Maxime Grosset ou encore Damien Joly. On va passer au basket maintenant, Faustin. Tu vas nous parler de la draft NBA qui va donc avoir lieu demain, je crois, du coup.
Ouais, je m'étais trompé au début de l'émission. J'ai dit de jeudi à vendredi, mais c'est de mercredi à jeudi.
T'as les deux.
Et ouais, il y a les deux parce qu'il y a le premier tour, après il y a le second tour. C'est spécial de cette saison. Et du coup, on a trois Français attendus dans le top 10 de cette draft, car les trois sont aussi invités dans la Green Room. Dans la Green Room, avec pour commencer Alexandre Sarr, le Français de 19 ans, natif de la région bordelaise, part dès ses 14 ans rejoindre le Real de Madrid pour deux saisons avant de s'envoler aux États-Unis, rejoindre la Ligue Overtime Elite, dont proviennent notamment les jumeaux Thompson, numéro 4 et 5 de la draft précédente. Mais il va déployer son plein potentiel du côté de la Ligue australienne de basket. Avec l'équipe des Perth Wildcats. Alexandre Sarr mesure 2m16 et une envergure de 2m24. Son niveau défensif est déjà très bon avec un excellent sens du contre et il peut même tenir des mismatchs à l'extérieur de la raquette. Sa palette offensive est elle aussi bien remplie car sa grande taille lui apporte un avantage certain, proche du cercle. Pour autant, il a réussi à développer un très bon dribble et reste mobile et athlétique pour un joueur de sa taille. Son point faible reste son shoot qui est assez irrégulier. Il est attendu dans le top 3 de la draft et à mon avis, il ira chez les Wizards en seconde position pour renforcer leur raquette, là où les Hawks en ont un peu moins besoin et pourrait plus s'intéresser à un autre Français, Zachary Rizaché, né à Malaga, là où jouait au basket basket son père. Il commence le basket jeune et arrive à intégrer le centre de formation de l'ASVEL, où dès sa deuxième saison, il joue quelques minutes avec les pros, que ce soit en Belgique Elite ou en Euroleague. Et lors de sa troisième saison, il rentre complètement dans la rotation lyonnaise. Mais déçu du peu de minutes qu'on lui accorde, il décide de rejoindre le JL Bourg et signe ainsi son premier contrat pro. Il va évidemment se démarquer, a su gagner en confiance tout au long de la saison, en menant régulièrement son équipe à la victoire. Du haut de ses 2m06, Zachary Zaché est un ailier très polyvalent. Il peut shooter, défendre, mais aussi attaquer le cercle. Cependant, son physique reste encore un peu frêle, ce qui lui empêche d'impacter vraiment les raquettes adverses. C'est à mon sens celui qui sera le numéro 1 de cette draft, car les Hawks ont tout intérêt à le choisir pour renforcer leur poste d'ailier où aucun joueur ne s'est vraiment affirmé. De plus, la couleur du maillot ne changera pas pour lui, car il restera en rouge. Un autre joueur qui évoluait en rouge cette saison en Betis Elite et qui est attendu dans le top 10 de la draft, c'est Tidjane Salon, le Choletais, a commencé lui aussi le basket très jeune. Il s'est fait repérer, a rejoint l'INSEP où il ne restera qu'une seule saison pour ensuite rejoindre l'Académie Gautier de Cholet. Il rentre dans l'effectif professionnel depuis cette saison où il a clairement su s'imposer lui aussi en tant que joueur indispensable. Comme Zachary Zaché, il mesure 2m6 mais lui pèse 99 kilos, car oui, son gros point fort, c'est clairement son physique, sûrement le mieux développé de toute cette draft 2024. Le français est déjà bien robuste, ce qui ne l'empêche en rien d'être très athlétique. Pour dire, après les tests qu'il a fait à la draft combine, il est même comparé à Giannis Antetokounmpo sur le plan physique, ce qui prouve le monstre qu'il peut devenir. Dans les dernières mock drafts, il est prévu à la 8e place et atterrirait donc à San Antonio pour accompagner un certain Victor Wembanyama.
Eh bien voilà la belle histoire qui pourrait évidemment arriver. Merci à toi Faustin pour cette chronique. Évidemment tu nous reparleras de la draft dès la semaine prochaine. Évidemment il y aura pas mal d'actualités puisque le tour aura commencé, mais également Wimbledon, et puis on sera en plein dans l'Euro. On profite donc de cette fin d'émission pour vous parler des générations d'or 2023-2024. On rappelle que vous avez voté, vous étiez 510 à voter via un sondage diffusé sur les réseaux sociaux pour élire les quatre catégories, donc de meilleurs sportifs ou sportifs, de meilleurs entraîneurs, de meilleurs espoirs et de meilleurs clubs. On va commencer sans plus tarder. Je vais vous laisser vous préparer, messieurs, puisque voilà, on va faire un chacun. Sortez un petit peu vos téléphones pour avoir donc les noms des vainqueurs. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Et puis ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux savent déjà le résultat, mais on va le diffuser évidemment à l'antenne. La première catégorie qui est tombé, meilleure sportive ou sportif. Je rappelle avant ça les nominés et puis je vais laisser Faustin, puisque tu es prêt, annoncer le vainqueur et puis je donnerai le classement ensuite. Les nominés donc c'était Imad Abdelli, Amandine Brossier, Leila Lacan, Vanina Paoletti, Neil Sacco ou encore Nikita Sherbak. Faustin, la parole est à toi. Le vainqueur du Génération d'or 2023-2024 du meilleur sportif ou sportif est attribué à
Imad Abdelli.
Imad Abdelli du SCO d'Angers qui s'impose avec 39,8% des voix. Il devance donc Amandine Brossier qui a récolté 27%. Ensuite, Nikita Sherbak des Ducs d'Angers. Voilà, le seul représentant des Ducs qui termine troisième avec 14,6. Ensuite, Leila Lacan 10,8. Neil Sacco 4,1. Et Vanina Paoletti 3,7%. Et pour la petite anecdote, donc pendant l'émission, on a dévoilé les nommés. Voilà, les publications se mettaient en ligne et Imad Abdelli, donc qui a été identifié sur la publication, avait liké, a été premier notamment à voter. Donc c'est assez symbolique que ce soit lui qui gagne. Donc on le remercie. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais voilà, il a lui-même pu voter donc pour ces générations d'or 2023. Je vous dis pas ses votes, mais évidemment vous vous doutez que c'était assez assez orienté vers le SCO.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une victoire comme on aurait pu s'y attendre large.
Non, c'était assez disputé.
Au vu de du parcours du SCO de cette année et on va dire de la fanbase qu'ils ont, mine de rien, le top 3, les écarts sont pas si énormes que ça entre la première et la deuxième place et la deuxième et la troisième. Et au final, on a quand même du coup, parce qu'on n'avait pas fait de catégorie cette année, mais on a quand même notre meilleur sportif de l'année, et on a aussi du coup notre meilleur sportif féminin.
C'est ça. Donc c'est Amandine Brossi hein, qui est là. Ça change puisque les deux derniers meilleurs sportifs c'était des joueurs des loups d'Angers avec Joao Geraldo et John Persson notamment. On va passer au meilleur entraîneur. Qui est-ce qui est prêt pour Clément? Clément, tu vas nous faire les meilleurs entraîneurs. On rappelle les nommés. Nous avons Aurélie Bonan de l'UFAB, Alexandre Dujeu du SCO. Nous avons ensuite Valentin Rey de la Croix-Blanche Angers, Victor Varas du SCO Rugby et enfin Laurent Villa du Cholet Basket. Clément, la parole est à toi, je te laisse annoncer.
Donc le grand vainqueur de ce Génération d'Or pour le meilleur entraîneur est Victor Varas avec 49,8%.
Victor Varas, donc l'entraîneur espagnol du SCO Rugby qui s'impose dans sa catégorie du meilleur coach de l'année. Voilà, ça récompense évidemment tout ce travail qui a été fait tout au long de l'année par le SCO Rugby pour tenter évidemment de monter en Fédéral 2. Et voilà le travail qui a été récompensé par le succès de Victor Varas, donc le coach espagnol du SCO Rugby. Voilà, donc
très belle aussi deuxième place quand même pour Valentin Rey.
Exactement, Valentin Rey qui l'année dernière avait terminé je crois cinquième et qui cette fois-ci se retrouve deuxième. Ensuite Alexandre Dujeu qui est derrière alors qui était favori, mais voilà les.
Non, je trouve ça beau quand même que on va dire le milieu amateur soit passé devant le milieu professionnel en termes de foot.
C'est ça. Alors évidemment, on va vous le dire, le SCO Rugby a partagé les publications. Il y a eu pas mal, comme les années précédentes. Voilà, c'est les clubs un petit peu qui font un petit peu la pub du sondage. Et donc voilà, il y a des années où c'était les Loups. L'année dernière, c'était le SCO en balle également. Donc voilà pour le meilleur entraîneur. En ce qui concerne donc le meilleur espoir, je vais laisser Florian annoncer le
normal
vainqueur.
Pour notre futur espoir. Hein.
Vas-y, Florian.
Eh bien, écoutez, le Génération d'Or du meilleur espoir est décerné à Justin Kalumba en Durangesco avec 40,6% des voix. C'est une petite surprise pour moi. Franchement, je m'attendais plus à. Enfin, franchement, avec Faustin, on parle beaucoup régulièrement de NBA. Je pense que le fait que Cholet soit assez loin aussi pour nous, Angevin, je m'attendais à ce que Tidiane Salin, futur espoir de la draft, soit cet espoir des générations d'or. Et donc, non, c'est Kalumba qui est.
Kalumba, le petit chouchou de Matteo qui n'est pas là aujourd'hui, qui aimait beaucoup ce joueur. Effectivement, Kalumba qui a été.
On le sait, Matteo, t'as mis 3 milliards de comptes faux à ton nom. Pour voter.
Donc voilà, Kalumba qui est élu meilleur espoir, donc devant Gaspard Pommier qui fait une petite surprise avec 19,7% de la voix. C'est très serré avec Marine Dursus 19,1 et ensuite Tidjane Salone 14,4 et 6,3 quand même pour Hugo Mienandi de l'Étoile Angers Basket.
C'était peut-être la catégorie où on va dire en termes de pourcentage.
C'était plus serré, c'est plus homogène.
Ouais.
Cédric, très très rapidement puisqu'on va devoir laisser la main. Le meilleur club, donc le Génération d'Or 2023-2024 du meilleur club est attribué. Ah, je t'écoute. Cédric.
Bah, j'ai envie de dire à l'image de son entraîneur hein, en termes de pourcentage puisque avec un 52,2% des votes, c'est le SCO Rugby.
Le SCO Rugby qui remporte donc ce Génération d'Or 2023-2024 du meilleur club, évidemment un club qui bosse très bien, qui a failli monter en Fédéral 2 et puis surtout voilà beaucoup d'équipes très intéressantes au sein de ce club. On rappelle qu'on les recevra d'ailleurs peut-être la semaine prochaine à reconfirmer, mais voilà, suivez évidemment nous sur les réseaux sociaux pour avoir ces annonces-là sur Insta, sur Facebook et sur Twitter. Je vous remercie beaucoup les gars de m'avoir accompagné pour cette émission de Génération Sport. On va vous laisser avec la suite des programmes sur Radio G, puis on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.